Alors, cette concurrence n'a pas été seulement, je dirais, le produit de l'intervention politique des États, ça a été plus encore le principe d'organisation de l'État et, au fond, ce qui caractérise peut-être le mieux cette rationalité néolibérale dont nous parlons, c'est le fait que le gouvernement, l'activité gouvernementale, au fond, a eu comme logique celle de l'entreprise. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que le droit public, le droit administratif, s'est de plus en plus calqué, modelé en quelque sorte, sur cette figure, cette logique de l'entreprise privée, donc qui a été non seulement sur le plan idéologique, mais je dirais sur le plan même des formes d'activité, érigé en une espèce de modèle absolu. Les Américains, par exemple, à la fin des années 80, expliquent que l'action gouvernementale, c'est en fait une activité entrepreneuriale. Je veux dire, le mot « l'entrepreneur » n'est plus seulement appliqué aux agents privés. C'est désormais le modèle de l'action publique. Et cette logique de l'entreprise, on la voit à l'œuvre aujourd'hui partout. Et elle a des effets politiques majeurs. Alors, on la voit partout. Il suffit de regarder, par exemple, comment en France, on essaye de transformer l'administration par ce qu'on appelle la nouvelle gestion publique. Par, en fait, l'introduction de principes de management, de principes d'évaluation, qui consiste à faire en sorte qu'on introduise des modèles ou des techniques de calcul, de comptabilité de ce que font les agents publics, et on essaye de les mettre en concurrence les uns avec les autres pour, les stimuler, pour faire, en fait, comme si tous ces agents publics ne devaient fonctionner qu'à l'intérêt privé. Bon. Alors, on transforme au fond les administrations en espèces d'entreprises qui auraient à agir dans des situations de marché. C'est-à-dire, en gros, on considère que désormais nous n'avons plus affaire à des citoyens, même plus à des usagers, mais à des consommateurs. Des consommateurs d'école, des consommateurs d'hôpitaux, des consommateurs de services postaux, etc. Finalement, avec cette rationalité néolibérale, nous avons affaire à quelque chose qui n'a pas souvent été souligné ou pas suffisamment souligné. Nous avons affaire à une transformation de l'État lui-même. Si je voulais résumer, je dirais que l'État a désormais pour fonction de transformer la société en instaurant partout où c'est possible des situations de marché. Mais pour ce faire, l'État est amené à se transformer lui-même selon des logiques d'entreprise. De sorte que, finalement, de la tête de l'État jusqu'à la base, nous avons affaire à quelque chose de nouveau. Nous avons affaire, finalement, à une chaîne managériale, et c'est le terme qui est maintenant utilisé dans la fonction publique, à une chaîne managériale qui va du président jusqu'au plus humble des agents publics. Et ne nous étonnons pas, à ce moment-là, que, les maximes les plus anciennes, que les principes constitutionnels, que le droit public soient mis à mal. Et que l'on puisse aujourd'hui repérer toute une série de violations, de transgressions de ce qui faisait autrefois la démocratie libérale, c'est-à-dire par exemple la division des pouvoirs, ou le respect d'un certain nombre de normes déontologiques. Pourquoi ne faut-il pas s'étonner? Eh bien, tout simplement, si l'État fonctionne aujourd'hui comme une entreprise, à sa tête, il y a un super PDG. Qui va faire passer avant toute chose, avant toutes les normes de droit public, avant même, je dirais, tous les principes constitutionnels et tous les principes moraux, si je puis dire, qui va faire passer une logique d'efficacité. Et c'est ce que nous voyons partout. À l'hôpital, à l'école, à la poste, dans les chemins de fer, partout, on oppose à la logique, je dirais, du choix citoyen, de la délibération démocratique. Partout, on oppose la même logique qui est celle de l'efficacité, qui doit primer sur toute autre considération. Et cette logique d'efficacité, qui suppose donc la situation de marché et la logique de la concurrence, donc, est en train de faire effondrer la démocratie telle que nous l'entendions, je dirais, dans les démocraties libérales. On peut même voir un certain nombre de modèles de ça. Je veux dire, le modèle berlusconien, par exemple. Le modèle berlusconien, qui est un peu le pendant du modèle sarkozien, et finalement, c'est celui, je reprends l'expression de Berlusconi, d'une démocratie compétitive. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui importe, c'est que le système politique, le système de parti, le système des médias soit compétitif, efficace et surtout puisse reconduire toujours les mêmes au pouvoir. Parce que derrière, il y a évidemment des logiques de reconduction des élites au pouvoir. Alors, au fond, au début, nous parlions de la crise économique. Bon. Non seulement la crise économique ne met pas en cause définitivement le néolibéralisme, mais on peut même craindre que cette crise économique invite à une sortie néolibérale, pousse vers une sortie néolibérale, vers une certaine radicalisation, dans le sens que j'ai indiqué. Pourquoi ? Eh bien, parce que en situation de crise, on a besoin de mesures d'urgence, de mesures de sauvegarde et je dirais d'une certaine logique d'efficacité, justement. Au fond, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que nous sommes en état d'urgence, une espèce d'état d'urgence économique. Mais bientôt, peut-être, cet état d'urgence économique qui pousse, par exemple, à transgresser, évidemment, un certain nombre de dogmes du laisser-faire, peut-être que demain, cet état d'urgence sera un état d'urgence sociale ou politique. Et qu'on pourra peut-être invoquer, justement, une logique d'efficacité contre les principes démocratiques. Donc, moi, je crois, si vous voulez, qu'on aurait tort, comme on l'entend trop souvent aujourd'hui, de dire que la page du libéralisme est tournée. On chante trop tôt victoire. Et par là même, on se désarme. Et en se désarmant, on ne prépare pas la véritable alternative. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Et tout le travail que nous avons fait de réinterprétation, de relecture du néolibéralisme conduit à ça. Au fond, la question, elle est posée, je dirais, à la gauche. Soit cette gauche se contente de penser que le libéralisme, ça a été de laisser faire, et qu'au fond, on peut s'appuyer sur les bonnes vieilles recettes de l'Europe, et qu'il s'agit de faire une Europe plus efficace qui répondra mieux aux problèmes. Soit on se contente de ça, soit on se dit, au fond, nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés, ce à quoi nous avions affaire, c'était à un État qui est en train de se transformer selon cette logique de concurrence, et il faut maintenant penser à tout à fait autre chose. Alors, est-ce que ça sera le retour à la bonne vieille solution social-démocrate, du compromis entre les classes, appuyé sur l'État social et l'État éducateur? Ça peut être, pour certains, une voie, bon, mais ça peut être aussi l'invention d'une autre rationalité. Nous l'appelons la rationalité du commun, la raison du commun, c'est-à-dire essayer de repenser finalement une organisation sociale, une organisation du lien humain qui soit fondée sur des pratiques de solidarité, de coopération, mais non pas organisée de façon administrative, comme ça a été le cas avec le compromis social-démocrate, mais une organisation du commun qui puisse prendre en charge les activités humaines et qui soit en quelque sorte contraire, la logique contraire à celle du néolibéralisme. Non pas la logique de la concurrence partout, mais la logique, je dirais, de la pratique coopérative, de la pratique du commun maximale. Et au fond, c'est peut-être en pensant dans cette voie-là, hein, nous ne prétendons aucunement avoir un programme défini, et ce n'est pas du tout notre propos, mais je crois que c'est en essayant de penser dans ces horizons-là, selon ces pistes-là, que l'on aura le plus de chances d'éviter les pièges qui nous sont aujourd'hui tendus. Le principal piège aujourd'hui qui nous est tendu, c'est celui du recours à l'État, ce que nous appelons le fétichisme de l'État. C'est au fond de croire que c'est le marché qui est en crise et que le salut viendra de l'État. Il nous semble que là, c'est une impasse, y compris qu'il pourrait être une impasse dangereuse, parce que l'État, ça peut être aussi un État, je dirais, dangereux. Ça peut être aussi des logiques de contraintes et de forces qui ne sont pas tout à fait souhaitables.